Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Eruvin, page 47, Daf Mem Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Shalosh Chatzerot Shel Shnei Batim, on peut se contenter de laisser hors du Eruv l'équivalent de trois cours contenant chacune deux maisons. Ve'amar Rav Chama Bar Guria Amar Rav, Halakha Rabbi Shimon, la Halakha est fixée comme Rabbi Shimon. Uman Paligale, et qui c'est qui discute avec Rabbi Shimon? La Gemara répond, nous l'avons vu clairement dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. La question se pose, Ve'ha'amart, pourtant tu as dit précédemment que la règle générale est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Halakha Rabbi Yehuda, que lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la Halakha est fixée comme Rabbi Yehuda. Donc pourquoi est-ce que Rav fixe la Halakha comme Rabbi Shimon? Forcément, c'est parce que cette règle générale n'existe pas. La Gemara s'étonne, ou Maïkushia, quelle question y a-t-il du fait que Rav a fixé la halakha comme Rav? Dilma, Hachanami, peut-être qu'ici aussi, Hechad et Itmar, là où il a été dit clairement que la halakha est fixée comme Rabbi Shimon, Itmar, ça a été dit, et la halakha est fixée donc comme Rabbi Shimon, malgré cette règle générale. Hechad et lo Itmar, mais là où il n'a pas été fixé la halakha comme Rabbi Shimon, lo Itmar, ça n'a pas été dit, et nous retournerons donc à notre règle générale pour fixer la halakha comme Rabbi Yehuda. Autrement dit, cette exception ne réfute pas la règle. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Eruvin Daf Mem Vav. Nous commençons le shiur de Maseret Eruvin Daf Mem Zayin à la quatrième ligne du haut de la page. Nous avons vu précédemment une règle générale énoncée par Rabbi Yochanan, selon laquelle la halakha est comme Rabbi Yehuda lorsqu'il est en discussion avec Rabbi Meir ou Rabbi Shimon, et la halakha est comme Rabbi aussi lorsqu'il est en discussion avec Rabbi Meir, Rabbi Shimon ou Rabbi Yehuda. Rav Meshachi a dit là-dessus que ces règles générales n'existent pas, mais plutôt la halakha est fixée dans chaque cas, par exemple selon la logique des choses, ou selon d'autres critères, comme celui de suivre l'opinion la plus stricte lorsqu'il s'agit d'une question d'une halakha minatora. La Gemara cherche à savoir d'où est-ce que Rav Meshachi sait que ces règles générales sont fausses et ne sont pas appliquées. La Gemara a essayé d'amener deux preuves qui ont été réfutées. La Gemara en amène une troisième, Elameha, plutôt il le sait de ceci, d'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah plus loin, Daf Pevav Amud Alef, Hameniach et Beto, celui qui délaisse sa maison, Vehalach Lishbot Beir Acheret, et il est parti passer le Shabbat dans une autre ville, Echad Nochri Vehad Israël, soit s'il s'agit d'un Goy, soit s'il s'agit d'un Israël, Oser Livne Chatzerot, ils interdisent quand même aux autres habitants de ces cours de porter s'ils ne font pas les arrangements nécessaires. Et ce, parce que même lorsqu'une personne ne se trouve pas dans sa maison, nous considérons comme s'il y était, et il interdit donc de porter dans la cour s'il ne participe pas au Eruv, ou s'il s'agit d'un goy, si on n'acquiert pas les droits qu'il a sur cette cour en les louant, comme il sera expliqué dans le sixième chapitre. D'ivrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Enoser, celui qui ne se trouve pas dans sa maison car il a quitté la ville, n'interdit pas aux autres habitants de la cour de porter, comme s'il n'existait pas, et cela soit si c'est un goy, soit si c'est un Israël. Rabbi Yossi Omer, Nochri Oser, un goy qui ne se trouve pas dans la ville pour le Shabbat interdit aux habitants de la cour de porter si on ne loue pas ses droits dans la cour, car même s'il a décidé de rester en dehors de la ville pour ce Shabbat, il peut quand même changer d'avis. Israël enoser, mais un Israël qui ne se trouve pas dans la ville pendant le Shabbat n'interdit pas aux autres habitants de la cour de porter. Mipnei she'en derech Israël lavo b'Shabbat, car en général, un Israël ne rentrera pas chez lui pendant le Shabbat, mais plutôt il reste là où il a décidé de passer le Shabbat. Par conséquent, lorsqu'il est absent, nous considérons qu'il n'existe pas. Rabbi Shimon Omer, Afilu hiniach et beto, même s'il a délaissé sa maison, vehalach lishbot etzel bito, beota ha'ir, et il est parti passer le Shabbat chez sa fille dans la même ville, eno oser, il n'interdit pas aux autres habitants de cette cour de porter de leur maison à la cour, parce qu'il est absent. Shekvar hisiach dato, car une fois qu'il a décidé de passer le Shabbat chez sa fille, nous estimons qu'il a détourné son attention d'habiter chez lui. Nous estimons donc qu'il ne rentrera pas chez lui pendant le Shabbat. Ve'amar Rav Chama Bar Guria Amar Rav, halakha k'Rabbi Shimon, la halakha est comme Rabbi Shimon, donc même s'il se trouve dans la même ville chez sa fille, il n'interdit pas aux autres habitants de la cour de porter. Uman Paligale, la Gemara demande qui c'est qui discute avec Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, entre autres, c'est Rabbi Yehuda, car il dit que son absence permet aux autres habitants de la cour de porter que s'ils se trouvent dans une autre ville. D'ailleurs, la Gemara aurait pu poser la même question à partir de Rabbi Yossi, qui est aussi en désaccord avec Rabbi Shimon. Veha Amart, pourtant tu as dit précédemment, Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon, halakha ki Rabbi Yehuda, que lorsque Rabbi Yehuda est en désaccord avec Rabbi Shimon, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Forcément, ces règles générales n'existent pas, et des fois, nous pouvons fixer la halakha comme Rabbi Shimon. La Gemara réfute Umay Kushia, quelle question y a-t-il du fait que Rav a fixé la halakha comme Rabbi Shimon? Dilma peut-être Hachanami, ici aussi, nous pouvons donner la même réponse que nous avons donnée précédemment. Hechade Itmar, là où il a été dit clairement que la halakha est comme Rabbi Shimon Itmar. Ça a été dit, donc la halakha sera fixée comme Rabbi Shimon, contrairement à la règle générale. Hechade lo Itmar, mais là où il n'a pas été dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, lo Itmar, il n'a pas été dit. Dans ce cas, nous suivrons la règle générale pour fixer la halakha comme Rabbi Yehuda, ou le cas échéant comme Rabbi Yossi. Cette exception ne contredit donc pas la règle. La Gemara dit, et la Meha, plutôt c'est de là que Rav Mesharshia savait que ces règles générales n'existent pas. D'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah plus loin d'Af Memtet Amud Bet, concernant une personne qui était en chemin, et il a dit qu'il décidait d'établir sa résidence sur place. Bon, la Mishnah dit là-dessus, Vezehu She'amru, et c'est sur cela que les Chachamim ont dit, He'ani Me'arev Beraglav, que le pauvre peut faire le hérouv avec ses pieds, c'est-à-dire se déplacer sur place à l'endroit où il veut établir sa résidence. Ce cas d'une personne qui se trouve en chemin ressemble au pauvre, car en général, une personne en chemin n'a pas de nourriture dont il peut disposer pour placer le hérouv. Rabbi Meir Omer, Anu en lano el ani. Nous ne pouvons appliquer cette loi que pour le pauvre. C'est-à-dire, le riche qui possède de la nourriture ne peut pas se rendre à l'endroit où il veut établir sa résidence, mais il doit impérativement y déposer de la nourriture pour que le hérouv prenne effet. Rabbi Yehuda Omer, Echad ani ve'echad ashir, soit le pauvre, soit le riche, peuvent se déplacer sur place pour établir leur résidence du Shabbat. Lo amru me'arvin bepat, les Chachamim n'ont dit qu'il est possible de placer du pain pour le hérouv, et là le'akel al he'ashir, uniquement pour être plus indulgent avec le riche, chez lo yetze ve'yarev beraglav, qu'il n'ait pas besoin de sortir de sa maison pour se rendre sur place et décider qu'il établirait sa résidence sur place. Il pourra donc se contenter d'envoyer un émissaire pour placer de la nourriture. Ou matnela Rav Chia Barashi le Chia Bar Rav Kameh de Rav, et Rav Chia Barashi enseignait à Chia fils de Rav en présence de Rav, et Chad Ani ve Chad Ashir, soit le riche, soit le pauvre, peuvent se rendre sur place pour décider d'établir leur résidence du Shabbat. Ramar le Rav, et Rav a dit à Rav Chia Barashi, Sayem Bahnami, conclut aussi cet enseignement en disant, Halakha ki Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Alors la question se pose, Tarte la Mali, pourquoi a-t-on besoin de dire deux fois que la halakha est comme Rabbi Yehuda, à la fois concernant cette Mishnah dans Daf Memtet Amud Bet, et dans la règle générale selon laquelle lorsque Rabbi Yehuda est en désaccord avec Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Veha Amart, pourtant tu as dit Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda, halakha ki Rabbi Yehuda. Lorsque Rabbi Meir est en désaccord avec Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Il n'est donc pas nécessaire de préciser ici que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Forcément, cette règle générale n'existe pas. Alors, Marefut ou Maïkushia, quelle question y a-t-il à partir de cet enseignement de Rav? Dilma Rav letle lehaneklale. Peut-être que Rav, effectivement, n'est pas d'accord avec ces règles générales. C'est pour cela qu'il a précisé que la halakha est comme Rabbi Yehuda concernant la Mishnah d'Af Memtet Amud Bet. Mais il est possible que d'autres Amoraïm, comme Rabbi Yochanan, appliquent ces règles générales rigoureusement. Donc finalement, d'où est-ce que Rav Mesharshia savait que ces règles générales n'existent pas? La Gemara dit, et la Meha, plutôt, c'est d'ici que nous le savons. D'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah dans Masechet Yevamot d'Af Memalef Amud Alef, Hayevama, une candidate au Lévira, c'est-à-dire une femme dont le mari est décédé sans laisser d'enfant, un des frères de son mari, donc un de ses beaux-frères, a l'obligation de se marier avec elle, c'est le Yiboum. Si aucun de ses beaux-frères ne veut se marier avec elle, un d'eux devra la libérer par la cérémonie du déchaussement que l'on appelle Khalitsa. Alors cette candidate au Lévira, Lotachlot Velot Yabem, ne peut pas faire la cérémonie du déchaussement ni ne se marier avec un de ses beaux-frères, Achiyehula Shlosha Chodashim, jusqu'à ce que s'écoule une période de 3 mois après le décès de son mari, afin de s'assurer qu'elle n'était pas enceinte au décès de son mari, car si elle l'était, elle est interdite à ses beaux-frères, puisque le commandement du Lévira n'annule l'interdiction de se marier avec sa belle-sœur, uniquement dans le cadre de ce commandement où le frère est décédé sans laisser d'enfant. Mais s'il a des enfants, il est interdit de se marier avec sa belle-sœur. Il est aussi impossible d'accomplir la cérémonie de la Khalitsa avant que s'écoule cette période de 3 mois, car si elle était enceinte, cette cérémonie n'est pas valable. Il est vrai que si elle mettait au monde un enfant vivant, de toute façon, cette cérémonie n'était pas nécessaire. Mais si elle mettait au monde un enfant qui n'est pas vivant, finalement, il s'avère qu'elle était candidate au Lévira, mais tant qu'elle est enceinte, cette cérémonie de la Khalitsa n'est pas valable. Forcément, on devra attendre donc que s'écoule cette période de 3 mois pour déterminer son état. Vechen she'ar kol hanashim, et ainsi toutes les autres femmes dont le mari est mort ou qui ont été divorcées, lo yinasu velo yitarsu, n'ont le droit ni de se marier, ni même de se fiancer, c'est-à-dire d'accepter les kiddushin, achiyehu lahem shlosha chodashim, jusqu'à ce que s'écoule une période de 3 mois après le divorce ou le décès du mari. Et ce, echad betulot, soit si cette femme était vierge avant ce mariage, ve'echad beulot, soit si elles avaient déjà cohabité avec un homme avant ce mariage, echad almanot ve'echad grushot, soit dans le cas où elles sont devenues veuves maintenant, soit si maintenant elles ont été divorcées, echad arusot ve'echad nesuot, soit si elles étaient uniquement fiancées, c'est-à-dire elles avaient uniquement accepté les kiddushin, mais n'ont pas été mariées, elles n'ont donc pas pu cohabiter avec cet homme, soit si elles étaient effectivement mariées. Dans tous ces cas, elles devraient attendre une période de 3 mois avant de se marier ou de se fiancer. Et ce, parce que si elles étaient enceintes au moment du divorce ou du décès de leur mari, il n'aurait pas été possible par la suite de déterminer est-ce que l'enfant qui est né est du premier lit ou du deuxième. Donc, pour éviter les confusions, les Chachamim ont interdit de se marier et même de se fiancer pendant cette période de 3 mois, de peur qu'elle se marie. Les Chachamim ont aussi étendu ce décret pour interdire même une femme qui était uniquement fiancée, donc qui ne peut pas être enceinte, de peur qu'une femme qui était mariée au départ se permette aussi de se fiancer ou de se marier. Rabbi Yehuda Omer, Nesuot Yitarsu, celles qui étaient mariées au départ ont le droit de se fiancer, mais pas de se marier, Ve'arusot Yinasu, et celles qui étaient uniquement fiancées, c'est-à-dire qui avaient uniquement accepté les Kiddushim, ont même le droit de se marier pendant cette période de 3 mois, Chutz Me'arusa Shebiuda, à part celles qui étaient fiancées en Judée, Mipne Shelibo Gazbah, car il est familier avec elle, c'est-à-dire en Judée, les fiancés avaient l'habitude de s'isoler pendant la période de fiançailles pour se familiariser. Il y a donc une possibilité que même la fiancée ait cohabité avec son fiancé. Elle devra donc aussi attendre une période de 3 mois pour se marier. Rabbi Yossi Omer, Kol Hanashim Yitarsu, toutes les femmes, soit si elles étaient uniquement fiancées, soit même si elles étaient mariées, ont le droit de se fiancer pendant cette période de 3 mois, Chutz min almana, à part la veuve, qui elle n'a pas le droit de se fiancer, mipnei ha'ibul, à cause de son deuil. Donc pendant le premier mois qui suit le décès de son mari, elle n'a pas le droit de se fiancer. Rabbi aussi est donc en désaccord avec Rabbi Meir sur un point, puisqu'il permet à toutes les femmes de se fiancer. Cependant, il est en désaccord aussi avec Rabbi Houda, car Rabbi Houda permet à celle qui était fiancée de se marier, tandis que Rabbi aussi l'interdit. Ve'amrinan et les Chachamim ont dit là-dessus, nous lisons selon la note marginale, Rabbi Elazar lo'al lebe midrasha. Un jour, Rabbi Elazar n'est pas rentré au Beta Midrash, Ashkeche le Rabbi Assi. Il a rencontré Rabbi Assi de Havakaim qui était debout en dehors du Beit HaMidrash. Amarle, Rabbi Lazar lui a demandé Mai Amour Bebe Midrasha, qu'est-ce que les Chachamim ont dit aujourd'hui au Beit HaMidrash de nouveau? Amarle, Rabbi Assi lui a répondu Hachi Amar Rabbi Yochanan, Halacha ki Rabbi Osi, la Halacha est comme Rabbi Osi. Les Chachamim se sont demandé Miklal de Yechida Paligale, nous pouvons donc déduire de là que c'est un avis unique qui est en désaccord avec Rabbi Osi, car comme nous l'avons dit dans le daf précédent, Rabbi Yochanan pense que la halakha est comme Rabbi Osi uniquement lorsqu'il est en discussion avec un de ses collègues. Mais la halakha ne sera pas fixée comme lui lorsque l'avis divergent est un avis majoritaire. Alagma répond, in oui, c'est un seul Tana qui est en désaccord avec Rabbi Osi. Donc le début de la Mishnah qui a été enseigné sans auteur est en fait rédigé par un seul Tana et non pas par les Chachamim. Da'atania, effectivement, il est enseigné ainsi dans une braïta. Si cette femme, avant le décès de son mari ou son divorce, avait souvent l'habitude de se rendre dans la maison de son père, c'est-à-dire chez ses parents, autrement dit, elle ne se trouvait pas souvent à la maison, il est donc peu probable qu'elle soit enceinte. Ou bien nous savons qu'elle était fâchée avec son mari, il est donc peu probable qu'elle soit enceinte. Ou bien nous savons que son mari était vieux, ou bien il était malade et il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ou bien nous savons qu'elle était malade et elle ne pouvait pas cohabiter avec son mari. Ou bien si nous sommes persuadés qu'elle était stérile, c'est-à-dire qu'elle avait été mariée 3 fois auparavant, elle n'avait pas eu d'enfant. Zkena, ou bien nous savons qu'elle était vieille, ktana ou mineure, ve'aylonit, ou bien si elle était stérile parce qu'elle était atteinte d'une malformation congénitale, cela se reconnaît notamment parce que les seins ne se développent pas chez elle, ve'she'ena rouya leled, ou bien si à cause d'un médicament qu'elle a pris, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, o'sha'ya ba'ala chavush bebet ha'asurim, ou bien son mari était emprisonné, hamapelet la'achar mitat ba'ala, ou bien celle qui a eu un avortement spontané après le décès de son mari. Dans tous ces cas, cette femme ne peut pas être enceinte. Kulan tzrichin le'amtin shlosha chodashim, toutes ces femmes doivent attendre une période de 3 mois avant même de se fiancer. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi aussi matir le'ares velina semiyad, tandis que Rabbi aussi permet à ces femmes qui sûrement ne sont pas enceintes, de se fiancer ou de se marier même immédiatement. Nous présumons, selon l'interprétation donnée par Rashi ici, que sa version dans les paroles de Rabbi aussi est la même que celle de Rabbeinu Tam rapportée dans Tosfot, dans Maseret Yevamot, Daf Mem Bet Amud Bet, qui est Rabbi aussi matir liares miyad. Rabbi aussi permet à ses femmes de se fiancer immédiatement, mais de se marier, il l'interdit, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Voir le Aruch Laner dans Masechet Yevamot, Daf Membet Amudbet et Daf Memgimel Amudbet. En tout cas, nous voyons dans cette Braïta que c'est Rabbi Meir qui est en désaccord avec Rabbi aussi. C'est donc un Tana unique et non pas les Chachamim qui sont en désaccord avec lui. Nous pouvons donc fixer la Halakha comme Rabbi aussi. Alors la question se pose, l'Amali, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a eu besoin de préciser qu'ici la Halakha est comme Rabbi aussi? Ve'ha'amart, pourtant, tu as dit que la règle générale est que Rabbi Meir et Rabbi aussi, Halakha, que Rabbi aussi, lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, la Halakha est comme Rabbi aussi. Forcément, ces règles générales n'existent pas, et c'est pour cela que Rabbi Yochanan a eu besoin de préciser ici que la Halakha est comme Rabbi aussi. En la Gemara demande, Umay Kushia, quelle question y a-t-il d'ici sur ces règles générales? Dilma, peut-être que la raison pour laquelle Rabbi Yochanan a eu besoin de préciser que la Halakha est comme Rabbi aussi, c'est la Fouke mid Rav Nachman Amar Shmuel. C'est pour exclure l'opinion de Rav Nachman au nom de Shmuel, de Amar qui dit Halakha ki Rabbi Meir bigzerotav, la Halakha est fixée comme Rabbi Meir dans ses décrets. C'est-à-dire, lorsque Rabbi Meir exprime un décret, la Halakha est toujours fixée comme lui. Dans l'autre cas, où il est question d'interdire une femme même fiancée de se fiancer pendant une période de 3 mois, c'est forcément un décret émis par Rabbi Meir. On aurait pu penser donc que la Halakha est comme lui. C'est pour cela que Rabbi Yochanan a eu besoin de préciser que la Halakha n'est pas comme Rabbi Meir, mais plutôt comme Rabbi aussi. On ne peut donc pas prouver d'ici que ces règles générales n'existent pas. La Gemara dit, et la Meha, plutôt, nous le savons d'ici, de Tania, car il est enseigné dans une braïta. Tolchim l'irid shel nochrim. Il est permis d'aller à un marché de goyim qui en général se déroule un jour de leur fête, bien qu'il soit interdit de traiter avec le goyim lorsqu'ils ont fête, car cela les réjouit. Elles risquent donc de remercier leurs idoles pour les bonnes affaires qu'ils font. Cela donc les encourage dans leur idolâtrie. Quand même, il est permis d'aller au marché, velokrim mehem behema be'abadim ushfachot, et de leur acheter des animaux, des esclaves ou des servantes, car cela leur accorde un degré de sainteté. En effet, les esclaves ont l'obligation d'accomplir certains commandements, et les animaux sont concernés par le repos du Shabbat. Batim, sadot ou kramim, il est aussi permis de leur acheter des maisons, des champs ou des vignobles, et ce, en Eretz Israël, pour encourager et augmenter l'habitation d'Israël en Eretz Israël. Vekotev ou ma'aleh berkaot shelahem, il lui est même permis d'écrire un acte de vente et de le faire ratifier par un tribunal goy, bien que cela leur accorde une importance et qu'il est interdit de le faire, mipnei shehu kematzil miyadam, car en le faisant, il ne fait que défendre ses intérêts des mains du goy, car s'il se rétractait de la vente, il pourrait lui causer des ennuis s'il n'y avait pas d'acte de vente ratifié par un tribunal. Ve'im haya kohen, et si cette personne était un kohen, metame bechutz la'aretz, et si l'acheteur était un kohen, il a même le droit de se rendre impur en sortant d'Eretz Israël, ladun ou le'arer immahen, pour obtenir un jugement et déposer plainte si le vendeur lui causait des ennuis. Ou keshem shemetame bechutz la'aretz, de la même manière que ce kohen a le droit de se rendre impur en sortant d'Eretz Israël pour défendre ses intérêts lorsque le vendeur lui fait des ennuis sur l'achat de sa maison ou de son terrain, car metame bebet akvarot, il aura même le droit de se rendre impur aussi en traversant un cimetière s'il doit le faire pour défendre ses intérêts. En la Gemara demande, bet akvarot salkadatar, peut-il te venir à l'esprit que ce kohen aurait le droit de traverser un cimetière? Tuma doraitahi, il s'agit d'une impureté minatora. Il est évident que le kohen n'a pas le droit de se rendre impur si c'est une interdiction minatora pour défendre ses intérêts. La Gemara répond, et là plutôt, c'est cela que la Braïta voulait dire, bebet apras de rabanan, ce kohen aura le droit de traverser un terrain où une tombe a été labourée. Les chachamim ont décrété que ce champ est impur, le kohen n'a pas le droit de le traverser. Cependant, pour défendre ses intérêts, lorsque le vendeur conteste la vente de sa maison en Eretz Israël, il aura même le droit de traverser ce terrain, donc en se rendant impur midrabanan pour défendre ses intérêts. Umitame lisa isha, il a même le droit de se rendre impur en sortant d'Eretz Israël pour se marier avec une femme, velilmod Torah, et pour étudier la Torah chez un maître qui se trouve en dehors d'Eretz Israël. Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce qu'on dit cela que le Kohen a le droit de sortir d'Eretz Israël pour apprendre la Torah? Bizman she'en motzel ilmod, c'est uniquement lorsqu'il ne trouve pas de maître chez qui apprendre la Torah en Eretz Israël. Aval motzel ilmod, mais s'il trouve chez qui apprendre la Torah en Eretz Israël, lo yitama, il n'aura pas le droit de se rendre impur pour sortir d'Eretz Israël. Rabbi Yossi Omer, av bizman she'motzel ilmod, même lorsqu'il trouve chez qui apprendre la Torah en Eretz Israël, nami yitama, il aura le droit de se rendre impur en sortant d'Eretz Israël pour apprendre la Torah, les filles, car...
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Memzayin Amud Bet, chez En Min Hakol Zoche Adam Ilmod. Ce n'est pas chez tout le monde qu'une personne mérite de réussir d'apprendre la Torah. En effet, chaque maître a une manière particulière d'enseigner. Il y a une manière qui convient à un élève, mais qui ne convient pas à un autre. C'est pour cela que si une personne trouve un maître chez qui apprendre, même en dehors d'Eretz Israël, il aura le droit de sortir d'Eretz Israël pour apprendre chez lui, car il se peut que ce soit uniquement chez lui qu'il mérite de réussir d'apprendre la Torah, et pas chez un autre maître. D'Amar Rabbi aussi, Maaseb Yosef HaKohen, il y a eu une histoire avec Yosef le Kohen, Shalach Etzel Rabo le Tzidon, l'Ilmot Torah, qui est parti chez son maître à Tzidon, donc en dehors d'Eretz Israël, pour apprendre la Torah. Ve'amar Rabbi Yochanan, halakha ki Rabbi Yossi, la halakha est comme Rabbi Yossi. Il est donc permis de sortir d'Eretz Israël pour apprendre la Torah, même s'il peut trouver un autre maître en Eretz Israël. La question se pose, Velamali, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a eu besoin de préciser qu'ici la halakha est comme Rabbi aussi? Veha Amart, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, halakha que Rabbi aussi. Pourtant, tu as dit précédemment que la règle générale est que lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, la halakha est comme Rabbi aussi. Forcément, ces règles générales n'existent pas. L'agma répond, Amar Abaye, itztavir, Rabbi Yochanan a eu besoin de préciser qu'ici la halakha est comme Rabbi aussi, parce que Salkadata Hamina, on aurait pu penser dire Hanimile quand ces choses sont dites. Que lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yossi, ben matnitin, c'est uniquement si leur discussion a été rédigée dans la Mishnah, aval ben braïta, mais si leur discussion a été rédigée dans une braïta, et malo, on aurait pu penser que non, que dans ce cas, la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi. Kamash ma'alan, c'est pour cela que Rabbi Yochanan a eu besoin de préciser que même dans une braïta, la halakha est comme Rabbi Yossi. Donc finalement, d'où est-ce que Rav Meshar Shia savait que les règles générales n'existent pas? L'agma répond, et là, plutôt, Harika Amar, c'est cela que Rav Meshar Shia a voulu dire, Haneklale, Lav Divrei Akolinhu, ces règles générales ne sont pas l'opinion de tout le monde, de Harav Letleh Le Haneklale, car Rav lui-même n'est pas d'accord avec ces règles générales, comme nous l'avons vu précédemment. En effet, Rav n'applique pas les règles générales, car il a eu besoin de préciser à propos de la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda concernant la question à savoir, est-il possible de se rendre sur place pour établir sa résidence du Shabbat, même sans déposer de nourriture, s'il s'agit d'une personne riche. Rav a eu besoin de préciser que la halakha est comme Rabbi Yehuda, bien que, selon la règle générale, de toute façon, la halakha est comme lui. Forcément, Rav n'est pas d'accord avec ces règles générales, et c'est donc cela que Rav Meshar Shia a voulu dire. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Cheftse Nochri En Konim Shvita. Des objets appartenant à un goy n'établissent pas de résidence. Autrement dit, ils ne font pas astreint un périmètre de 2000 coudées. Par conséquent, même si le goy les a amenés d'un endroit distant de plus de 2000 coudées, ces objets pourront être déplacés librement. La Gemara demande, le man, selon qui Shmuel a dit cela? Il est mal et rabanan. Si tu veux me dire qu'il l'a dit selon les chachamim qui pensent qu'un objet sans propriétaire n'établit pas de résidence, tant que personne n'en a pris possession, pshita, c'est évident. Si déjà des objets sans propriétaire, donc où il n'y a pas de propriétaire qui empêcherait ces objets d'établir de résidence, en konim shvita, quand même nous disons qu'ils n'établissent pas de résidence, et par conséquent, ils peuvent être déplacés librement par la personne qui en a pris possession en premier. Cheftze hanochri de itlehu baalim, les objets d'un goy qui ont un propriétaire qui les empêche d'établir une résidence pendant le Shabbat, car eux-mêmes ne sont pas concernés par ces lois, Mibaya, a-t-on besoin de dire que ces objets n'établissent pas de résidence et peuvent être déplacés librement? Et là, forcément, Aliba de Rabbi Yochanan ben Nouri, Shmuel a dit cet enseignement selon l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, Vekamash Malan, et c'est cela que Shmuel a voulu nous apprendre. Emar de Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, il est vrai que Rabbi Yochanan ben Nouri dit konin shvita, que des objets établissent une résidence. Hanemile, quand ces choses sont dites, Hefze Efker, c'est uniquement s'il s'agit d'objets sans propriétaire, delet lehu baalim, qui n'ont donc pas de propriétaire qui les empêche d'établir une résidence. Aval, Hefze Hanochri, deit lehu baalim, mais des objets appartenant à un goy. Ils ont donc un propriétaire qui les empêche d'établir la résidence, car eux-mêmes ne sont pas concernés par ces lois. Lo, non, ils n'établissent pas de résidence, par conséquent, ils pourront être déplacés librement. Mais Tivé, on a opposé à l'enseignement de Shmuel la braïta suivante. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Hashoel Kli Min Hanochri Bi Yom Tov, celui qui emprunte un ustensile à un goy pendant Yom Tov, Bechen Hamashillo le Nochri Kli Me'erev Yom Tov, et ainsi celui qui a prêté un ustensile à un goy la veille de Yom Tov, donc avant Yom Tov, Veherziro lo be Yom Tov, et il le lui a rendu pendant Yom Tov, Vehakelim, Vehaotzarot, Shejavtu, Betochatrum, et des ustensiles qui ont été placés dans un entrepôt qui se trouvait dans le rayon de 2000 coudées autour d'une ville. Et ce, non seulement si ces ustensiles appartiennent à Israël qui habite dans une autre ville, en dehors de ce périmètre, soit si ces ustensiles sont sans propriétaire. Yesh lahen alpay mama le chol ruach, ils ont tous un périmètre d'un rayon de 2000 coudées de chaque côté. C'est-à-dire, si un objet se trouvait chez un goy à l'entrée de Yom Tov, soit parce que cet objet lui appartenait, soit parce qu'il l'a même emprunté avant Yom Tov. Nous considérons qu'il a établi sa résidence sur place. Donc, si l'objet se trouvait dans la même ville, il ne peut être déplacé que dans toute la ville et dans un rayon de demi-coudée autour de la ville. Si la personne qui en prend possession par le Yom Tov a fait un Hérouv d'un côté, il ne pourra pas l'emporter avec lui en dehors des 2000 coudées autour de la ville. Un objet dont le propriétaire habite dans une autre ville, comme l'explique le Rashba et le Meiri, nous considérons que cet objet établit sa résidence sur place. Donc s'il se trouve dans la ville, il peut être déplacé dans toute la ville et dans un rayon de 2000 coudées tout autour de la ville. S'il se trouve en dehors de la ville, toutefois dans un rayon de 2000 coudées autour de la ville, nous considérons qu'il établit sa résidence sur place et ne pourra être déplacé que dans un rayon de 2000 coudées à partir de cet endroit, parce que nous considérons que le propriétaire était intéressé à ce que les habitants de la ville puissent le déplacer pour pouvoir s'en occuper. Cependant, si cet objet se trouve en dehors d'un rayon de 2000 coudées de la ville, dans ce cas, nous considérons qu'il établit sa résidence à l'endroit du propriétaire. Par conséquent, puisqu'il se trouve à plus de 2000 coudées de l'endroit où habite le propriétaire, il ne pourra être déplacé que dans un rayon de 4 coudées. Voir aussi les tchouvot du Shevet Alevi, Chelektet, Siman Aintet. Un objet sans propriétaire qui se trouve dans la ville peut être déplacé dans toute la ville et dans un rayon de 2000 coudées, mais s'il se trouve en dehors de la ville, même s'il se trouve dans un rayon de 2000 coudées autour de la ville, nous considérons qu'il établit sa résidence sur place et ne peut être déplacé que dans un rayon de 2000 coudées. Voir le Tosfot. S'il s'agit d'un objet appartenant à un goy, s'il se trouve dans la ville, comme nous l'avons dit précédemment, il pourra être déplacé dans toute la ville et dans un rayon de 2000 coudées. Mais s'il se trouve à l'extérieur de la ville, nous considérons qu'il établit sa résidence sur place et ne peut être déplacé que dans un rayon de 2000 coudées. Voir cependant le Biur Halakha dans Siman Tav Aleph. Venochri shehevilo perot michutz latrum, et un goy qui lui a amené, donc qui a amené pour un Israël des fruits de l'extérieur du périmètre de 2000 coudées autour de la ville, harezeh lo yazizem mimkomam, il n'aura pas le droit de les bouger de leur endroit, autrement dit, il ne pourra être déplacé que dans un périmètre de 4 coudées. Alors, iamar bishlama kasavar Rabbi Yochanan ben Nuri chepse nochri konim shvita, on comprend bien cette braïta, si nous disons que Rabbi Yochanan ben Nuri pense que les objets appartenant à un goy établissent leur résidence sur place. Hamane, Rabbi Yochanan ben Nuri, nous pouvons dire que l'auteur de cette braïta, qui dit que les objets d'un goy établissent leur résidence et ne peuvent être déplacés que dans un rayon de 2000 coudées, suit l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nuri. Et là, il y a marre qu'à savoir Rabbi Yochanan ben Nuri, mais si tu dis que Rabbi Yochanan ben Nuri pense, Cheftze Hanochri en Konim Shvita, que les objets d'un goy n'établissent pas de résidence, ils peuvent donc être déplacés librement. Hamane, quel est l'auteur de cette braïta? Lo Rabbi Yochanan ben Nuri, velo Rabbanan, ça ne peut être ni Rabbi Yochanan ben Nuri, ni les Chachamim. L'agma répond, le olam kasavar Rabbi Yochanan ben Nuri, toujours pourrais-je te dire que Rabbi Yochanan ben Nuri pense, cheftze hanochri konim shvita, que les objets d'un goy établissent leur résidence sur place, au même titre qu'un objet sans propriétaire. Ou Shmuel est Shmuel qui dit que les objets d'un goy n'établissent pas de résidence, Dehamar Karabanan l'a dit selon l'opinion des Chachamim, ou des Kahamart. Et en ce qui concerne la question que tu as posée, les Rabanan Pshita, si c'est selon les Chachamim, il est évident que les objets d'un goy n'établissent pas de résidence, quand même les objets sans propriétaire n'établissent pas de résidence. Sur cela, nous pouvons répondre, Maou de Tema, on aurait pu penser dire que nous considérons que les objets du goy établissent leur résidence sur place, Xera Baalim de Nochri, Atou Baalim de Israël, et ce en tant que décret émis par les Chachamim de considérer qu'un objet dont le propriétaire est goy établit sa résidence, de peur qu'on le confonde avec un objet dont le propriétaire est un Israël. C'est-à-dire, si nous voyons que l'objet qui a un propriétaire, qui est en fait un goy, peut être déplacé librement, on risque aussi de déplacer un objet appartenant à un propriétaire Israël. Kamash Malan, c'est pour cela que Shmuel a eu besoin de nous faire entendre que dans le cas où le propriétaire est goy, cet objet n'établit pas de résidence. Verav Ria Baravin Amar Rabbi Yochanan, Cheftze Nochri Konim Shvita. Les objets appartenant à un goy établissent leur résidence et ne peuvent être déplacés que dans un rayon de 2000 coudées. Et ce, Gzera Baalim de Nochri, à tout Baalim d'Israël. C'est un décret émis par les Chachamim de considérer un objet dont le propriétaire est goy établit sa résidence sur place, de peur qu'il soit confondu avec un objet dont le propriétaire est un Israël. Hanhu dichre de'atu le Mevarachta. Il y a des béliers qui ont été amenés par des goyim à la ville de Mevarachta pendant Yom Tov. Shara lehu Rava lebne Mechuza. Rava a permis aux habitants de Mechuza qui se trouvaient dans un rayon de 2000 coudées de cette ville d'en acheter. Amar le Ravina le Rava. Ravina a posé la question suivante à Rava. Maïda Ater, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi as-tu tranché ainsi? C'est parce que Rav Yehuda dit au nom de Shmuel que les objets d'un goy n'établissent pas de résidence. Ils peuvent donc être déplacés librement. Pourtant, il y a une règle générale selon laquelle lorsqu'il y a une discussion entre Shmuel et Rabbi Yochanan, la halakha est fixée comme Rabbi Yochanan. Amar Rav Chiya bar Ravin, Amar Rabbi Yochanan, Chepse Nochri Konim Shvita, les objets d'un goy établissent une résidence. Gzera Baalim de Nochri, Atu Baalim de Israël. Et ce, à cause d'un décret des Chachamim, selon lequel nous considérons que l'objet dont le propriétaire est goy établit sa résidence sur place, de peur qu'il soit confondu avec un objet dont le propriétaire est un Israël. Finalement, puisque ces béliers sont sortis de leur territoire, qu'ils avaient au début du Yom Tov, ils ne pourront être déplacés que dans un périmètre de 4 coudées. Hadar Amar Rava. Rava a rectifié son opinion et a dit « L'izdabnu libne Mevarachta » Ces béliers pourront être vendus aux habitants de la ville de Mevarachta, des Kula Mevarachta, les Didhu, car toute la ville de Mevarachta, concernant les béliers, Kedalet Amot Damia, peut être considérée comme un périmètre de 4 coudées, étant donné que celle-ci est entourée d'une muraille. En effet, comme nous l'avons vu au début du chapitre, lorsqu'une personne est sortie par contrainte de son territoire et a été placée dans un enclos, elle pourra se déplacer librement dans celui-ci, car l'enclos est considéré comme étant un périmètre de 4 coudées. Il en est de même pour la ville entourée d'une muraille. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Eruvin Daf Mem Zayin. Nous commençons le shiur de Maseret Eruvin Daf Mem Chet. Nous commençons Daf Mem Zayin Amud Bet à la fin de la deuxième ligne en bas de la page. Nous avons vu précédemment une discussion entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim en ce qui concerne les objets sans propriétaire. Selon les Chachamim, un objet sans propriétaire n'établit pas de résidence. Il est par conséquent assimilé à la première personne qui en prend possession et il peut déplacer cet objet librement dans son territoire. Tandis que selon Rabbi Yochanan ben Nouri, un objet sans propriétaire établit sa résidence sur place. Il ne peut donc être déplacé que dans un rayon de 2000 coudées. Tane Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné dans une braïta, Haram Sheben Trumé Shabbat, un filet de pêche qui a été étendu en tant que partition au milieu d'un puits, dont la moitié se trouve dans le territoire d'une ville et la seconde moitié se trouve dans le territoire d'une autre ville. Ce filet de pêche a été étendu pour permettre aux habitants de chacune de ces villes de puiser de l'eau se trouvant dans leur territoire respectif. La Braïta dit là-dessus, ce filet n'est pas suffisant, mais plutôt tsarir, il est nécessaire de placer aussi.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.